Alléluia. Qu'on puisse rester encore quelques instants dans cette présence du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci parce que tu es là. On veut vraiment t'accueillir, Saint-Esprit, dans cette salle. On réalise vraiment que tu es là dans cette pièce. Tu puisses vraiment être le bienvenu. Tu puisses prendre la place. Tu puisses t'asseoir où tu veux t'asseoir. Que tu puisses bouger dans les rangs. Que tu puisses venir ici sur scène. Saint-Esprit, sans toi, chez toi, ici, au milieu de nous. Tu puisses te manifester, que tu puisses parler. Tu puisses faire comme tu veux. Tu es ici ce matin, Saint-Esprit, notre invité, la personne de choix, et on veut vraiment te rendre tout l'honneur, l'honneur dont tu es digne. On est là pour toi ce matin. On a senti peut-être ta présence, on a senti que tu es ici, au milieu de nous. Et on aimerait te dire, comme on l'a chanté, nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons Esprit de vie. Sois vraiment accueilli, sens-toi accueilli par une église, par une famille, par des hommes et des femmes qui sont là pour toi, qui s'ouvrent à toi, qui t'adorent, qui te font la place. Viens nous parler, viens agir, viens nous révéler le Fils, viens nous révéler le Père, viens nous révéler qui tu es ce matin, le secret de ta présence, la douceur de ta présence, la voix qui vient nous chuchoter intérieurement, le cœur du Père. À toi l'honneur, Esprit Saint. À toi l'honneur, Dieu vivant. Alléluia. Amen. Et je crois vraiment que la pensée qui s'impose fortement à moi aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit, il a tellement envie qu'on le découvre davantage, qu'on le connaisse vraiment. Il a envie de marcher, il a envie de cheminer avec nous, avec chacun. Et ça me fait penser au verset d'Osée 6:3 qui dit « Alors reconnaissons le Seigneur comme Dieu, cherchons vraiment à le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie qui arrose la terre. » Et ce verset, ça nous encourage vraiment à chercher à le connaître et c'est certain qu'il va venir. La même chose qu'on ne se pose pas la question si le soleil va se lever le matin. Il va venir aussi comme cette pluie arroser la terre de nos cœurs pour faire croître cette connaissance en lui. Mais il y a vraiment ce cherchons vraiment à le connaître. Et je sentais fortement ce matin que Dieu désirait qu'on le connaisse encore mieux. Je ne sais pas comment vous adressez à Dieu quand vous priez. Certains disent Seigneur, d'autres disent Jésus, Seigneur Jésus, d'autres disent Papa, Père, je ne sais pas. Tout est juste, mais je réalise qu'il y en a un, il y en a un qui est là avec nous, qui marche avec nous et qui aimerait tellement converser et dialoguer avec nous. C'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on prie le Saint-Esprit? Est-ce qu'on parle avec? On pourrait se dire que ce n'est pas important finalement comment on s'adresse à Dieu. C'est vrai, et pourtant je sens que Dieu veut nous faire aller plus loin. Et qui désire vraiment, il désire qu'on puisse vraiment découvrir bien plus la personne du Saint-Esprit. Lui parler, prier le Saint-Esprit, l'entendre aussi. Il était là, on le sait, dès le départ. Dieu créa les cieux et la terre. On en avait déjà parlé, le mot original hébreu pour dire Dieu, Elohim, c'est un pluriel. C'est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils étaient déjà là au départ. On voit le Père, on voit Jésus, la parole, on voit le Saint-Esprit qui était sur terre, sur ce chaos, et puis qui transforme ce chaos en création. Et dans Jean 16, 7, Jésus, il dit à ses disciples, « Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit venir vous aider ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. » Alors, on connaît le plan du salut. Dieu le Père qui envoie sur terre Jésus pour sauver l'humanité. Et une fois sa mission terminée, mourir, donner sa vie, ressusciter, il dit à ses amis, ses disciples, avec qui il a passé 3 ans, presque jour et nuit, il leur dit dans Jean 14, 16, il dit « Et moi je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous et il habite en vous. Alors le Père, il règne dans le ciel, sur son trône. La Bible nous dit que Jésus est assis à la droite du Père, au ciel, et qu'il a envoyé son Saint-Esprit sur terre. Avant l'été, le dimanche de la Pentecôte, on en a parlé, j'ai fait un message où j'ai parlé des sept facettes de l'Esprit de Dieu. Le titre, c'est Pentecôte 2.0, vous pouvez le réécouter si jamais sur le site. Mais là, ce que je trouve fou, et c'est comme une révélation pour moi, c'est qu'on sait que le Père y règne, dans la gloire, au ciel. On sait que Jésus, à l'ascension, après il est remonté au ciel, qu'il règne avec le Père. On sait aussi qu'à la Pentecôte, il a envoyé le Saint-Esprit qui est là. On sait, pour la plupart, on sait tous ça. Mais aujourd'hui, Dieu en personne sur terre, c'est pas le Père, c'est plus Jésus, mais c'est le Saint-Esprit. Et à ses disciples avec qui ils étaient toujours ensemble, il leur dit, je vais vous envoyer quelqu'un d'autre qui sera toujours avec vous, qui va vous aider comme moi j'étais avec vous. Et c'est génial si on a une bonne relation avec le Père. On a pu lire pendant plusieurs mois dans nos groupes ressources, nos groupes maisons, le livre « Montre-nous le Père » avec David Terry. Et je crois vraiment qu'on a pu vivre vraiment des moments forts où Dieu se révèle. Et je crois que ça change notre vie de découvrir qu'il est vraiment notre papa. Et Diane a témoigné dans le culte témoignage il y a un mois à quel point notre conception de notre papa sur terre peut nous faire voir Dieu comme un papa plus ou moins attentif ou bon ou disponible. Et réaliser son amour total sans aucune condition, ça transforme notre vie. Pour être honnête, moi quand je prie en général le Seigneur, j'ai un Seigneur, puis Seigneur Jésus. C'est ce côté, ce Dieu un petit peu, je ne sais pas, plus humain, peut-être plus facile d'accès, peut-être dans ma compréhension, notre compréhension. Et puis si vous avez vu aussi, vous regardez encore les séries The Chosen, on réalise que l'homme, il est génial, il est extraordinaire, Jésus. Puis on a juste envie de lui parler quand on prie, oh Seigneur. Et on est en communion avec Jésus, notre Seigneur, c'est tellement bien. On prie le Seigneur, alléluia. On adore notre Seigneur, on prie au nom de Jésus. Tout ça, c'est bien, tout ça, c'est juste, tout ça, c'est excellent. Mais je réalise que si Jésus est celui qui nous donne accès au Père et nous entend, que le Père est là, qu'il est notre Papa, qui est constamment disponible et qui veut le meilleur pour chacun d'entre nous, et puis d'avoir une relation avec le Père et avec Jésus, c'est vraiment top. Ces versets me montrent qu'aujourd'hui, tout en priant le Père et Jésus, il y a Dieu en personne qui est sur terre, mais ce n'est ni le Père, ni Jésus, mais c'est le Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, je pars et je vous envoie quelqu'un d'autre. Alors on peut toujours prier Jésus, bien sûr, mais il y a ce quelqu'un d'autre qui est là. Et je crois que Dieu désire qu'on puisse davantage découvrir cet autre qui est là. Imagine qu'il est à côté de moi, mais si je ne lui adresse jamais la parole, puis que je prie juste le Père et Jésus, puis qu'il est toujours à côté de moi, c'est spécial quand même. Cet autre a été envoyé, puis il est là avec moi. Alors je peux parler au Père, à Jésus, je vais continuer de le faire encore, j'aimerais le faire plus, mais il y a cette autre personne qui a été envoyée, parce que Jésus est plus physiquement sur terre, qui est juste là, avec moi. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 13:13 que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et là, on voit Jésus, notre Seigneur, qui transmet la grâce de son sacrifice, comme on a pu le réaliser aussi par cette sainte scène. On voit l'amour de Dieu dans ce verset, Dieu le Père qui nous aime tellement. Et ce que Paul désire qu'on ait avec nous, c'est également cette communion du Saint-Esprit. Alors moi, je désire toujours plus connaître Jésus, j'ai envie d'avoir une révélation toujours plus grande du Père, puis être ce petit enfant qui saute dans les bras de son papa du ciel. J'ai envie d'aller de toujours plus découvrir ça. Mais je désire aussi connaître davantage ce quelqu'un qui nous a été envoyé sur terre. Et comme Paul le dit dans ce verset, vivre cette communion avec le Saint-Esprit. Et ce mot communion, en grec koinonia, qui vient de koinonios, ça veut dire un partenaire, un associé, un ami, un compagnon, celui qui partage en toutes choses. C'est super fort, quand même. Et un partenaire, c'est quoi? C'est qui? Tu vis avec. Un associé, tu fais tout avec. Un ami, c'est un confident. Un compagnon, c'est celui avec qui tu marches. C'est celui qui partage toutes choses, et c'est fort, pardon. Et j'aime énormément la traduction The Message en anglais, mais quand on transmet, quand on traduit en français, ça donne ceci, ce même verset que j'ai lu avant. Que la grâce merveilleuse du Maître Jésus-Christ, l'amour extravagant de Dieu, l'amour intime du Saint-Esprit soit avec vous tous. L'amitié intime de cet autre qui a été envoyé à la place de Jésus. Alors c'est beau de prier le Père, c'est bon de prier Jésus, c'est ce que je fais beaucoup. Jésus lui-même nous enseigne de prier le Père, notre Père qui est aux cieux. Mais il nous dit aussi qu'il nous a envoyé un autre avec qui avoir une amitié intime. C'est bon de prier le Père, le Seigneur Jésus, mais quel contact on a, pour reprendre les mots de Jésus lui-même, avec ce quelqu'un d'autre qui est là pour nous aider, avec ce quelqu'un qui est là avec nous pour toujours. Cette personne, ce compagnon, cet ami intime qui marche avec nous, qui partage tout ce qu'on fait. Et je crois qu'il y a une dimension à découvrir encore. En tout cas, moi, j'ai envie de le découvrir toujours plus. Enfin, je réalise, ça m'a interpellé en préparant ce message. J'ai l'impression souvent vraiment de parler au Seigneur, à Jésus. Puis je me dis, mais le Saint-Esprit est là tout le temps avec moi. Et j'ai envie de lui parler. Et je me souviens d'un jour, quand j'étais encore plus jeune que maintenant, j'étais assoiffé de Dieu et je veux l'être vraiment encore plus. Mais j'ai prié le Saint-Esprit pour plus de lui dans ma vie. Et tout à coup, j'ai réalisé qu'il était juste assis là, au bout de mon lit, alors que je priais, il était juste assis là. Je pouvais comme ressentir ou percevoir qu'il était là. Je savais qu'il était en personne là, à côté de moi. Le Saint-Esprit en personne dans ma chambre. Pas juste comme une sensation, pas juste comme une présence, mais plus encore. Il était là en personne. Et ça a changé ma vie. J'ai réalisé que le Saint-Esprit n'est pas juste une énergie du ciel pour me fortifier, mais c'est Dieu en personne sur terre vers moi. Et sans faire une étude biblique ce matin, on voit dans la Bible que le Saint-Esprit, il est vraiment Dieu. Il est vraiment Dieu lui-même. Déjà ce verset de 1 Corinthiens 3,16 qui nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et on prend souvent ce verset pour parler que le Saint-Esprit est en nous. C'est juste. Mais je trouve intéressant parce qu'il est mis qu'on est le temple non seulement d'un esprit divin, d'un esprit envoyé de Dieu, mais on est le temple de Dieu. On est le temple de Dieu quand le Saint-Esprit vient en nous, c'est Dieu. Le Saint-Esprit qui vient dans le temple. Autre exemple un petit peu plus trash dans Actes 5, versets 3 et 4, il est dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Il a menti au Saint-Esprit, mais c'est à Dieu. Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit est, comme on l'a vu aussi au tout départ, il est véritablement une personne. Et aujourd'hui, je le redis volontairement encore une fois, c'est pas que je suis oublieux, mais Dieu sur terre, ce n'est pas le Père, ce n'est plus Jésus. Les deux règnent au ciel, mais c'est la personne du Saint-Esprit qui est disponible pour chacun. Et être en communion avec le Saint-Esprit, c'est pas juste pour les chrétiens un petit peu plus spirituels ou pour ceux qui sont un peu plus charismatiques ou qui sont un peu plus foufous, je sais pas. Mais c'est juste être en contact avec la personne divine qui est juste ici, qui a été envoyée à la place de Jésus sur terre. Et le Saint-Esprit est une personne parce qu'il a une personnalité. On voit que c'est le cas pour le Saint-Esprit. Par exemple, dans Éphésiens 4:30, il est mis « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Il a des émotions, on peut l'attrister comme une personne. On peut le réjouir. C'est vraiment une personne à côté de nous. Et je pense qu'il est ému quand on lui dit qu'on l'aime. Et je pense qu'il est triste quand on passe notre journée sans lui adresser la parole ou quand on fait des choix qu'il n'aime pas. Une personne qui ressent les choses et qui a des émotions. On le voit aussi dans Romains 15, 30 où Paul nous parle de l'amour que le Saint-Esprit nous donne. Il est là à nos côtés et il nous aime. Et il nous aime. Et j'avais cette pensée ce matin pour l'une ou l'autre personne qui est là ou bien si vous écoutez en différé ce message sur notre site. Je crois que parfois, tu te sens seul. Et il aimerait te dire, le Saint-Esprit aimerait te dire aujourd'hui qu'il t'aime. Qu'il est là à tes côtés à chaque instant, chaque jour, chaque nuit. Et qu'il t'aime profondément. Et il aimerait que tu le saches. Et il aimerait que tu puisses entendre cette douce voix qui te le dit régulièrement. Il aimerait que tu puisses toujours plus l'entendre. Mais si tu l'entends pas vraiment ou que tu le réalises pas vraiment, justement ce matin, il aimerait te le dire par ce message. reçois vraiment cette parole de sa part. Il est vraiment une personne parce qu'il nous parle comme une personne. Jean 16, 13 nous dit, quand il sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. C'est une personne aussi à nos côtés qui prie pour nous. On le voit dans Romains 8, 26, il est mis que l'Esprit lui-même intercède pour ceux qui lui appartiennent. Imagine, il passe sa journée avec toi, il voit tout ce que tu vis, il entend tout ce qu'on te dit, il entend tout ce que tu dis, et il voit aussi tous tes défis et tous tes challenges. Et là, je suis sûr que des fois, il essaye de te parler, espérant que tu entendes ses encouragements, ses conseils, son réconfort. Mais aussi, en voyant tout ce que tu vis, il prie pour toi. C'est la parole de Dieu, la Bible qui le dit. Il prie pour toi. Il intercède. Il prie en ta faveur. Et je pense qu'il dit, hey Père, regarde ce qu'il ou ce, regarde ce qu'elle vit. Entends sa prière, interviens dans sa vie. Exauce, ouvre le chemin. Ouvre la porte, réconforte-le, bénis-la. Bref, on pourrait s'étendre encore et voir qu'il est vraiment une personne avec sa propre volonté. Mais on le voit par exemple avec le Saint-Esprit qui dit à un moment donné, clairement, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et aussi quand il est mis dans 1 Corinthiens 12, 11, mais en cela, c'est le seul et même Esprit qui le rend possible. Et il distribue ses dons à chacun comme il veut. Il distribue ses dons à chacun comme il veut. Et David Wilkerson, un pasteur, c'est aussi l'auteur du livre, et il y a le film qui a été fait, La Croix et le Poignard, il raconte qu'au début de son ministère, il servait Dieu de tout son cœur. Il prêchait, il priait, il s'activait. Mais souvent, il était comme à bout de force, comme si tout reposait sur lui. Puis un soir, découragé, il s'est enfermé dans sa chambre. Il a prié, prié, puis soudain, il a senti une présence si douce, si réelle, qu'il a su que quelqu'un était là. Pas juste une énergie, pas juste une aide, mais une personne. Et dans son cœur, il a entendu « Tu m'as cherché comme une puissance, mais je suis ton ami. Parle-moi. Marche avec moi. » Et là, les larmes ont coulé, puis ce soir-là, il a dit, pour la première fois, écoutez ça, il a dit « Saint-Esprit, pardonne-moi, parce que je t'ai traité comme une puissance à utiliser. Pardonne-moi, je t'accueille comme une personne, mon compagnon, mon guide. » Et à partir de ce jour-là, son ministère n'a plus jamais été le même. Le Saint-Esprit est plus qu'une force. C'est d'ailleurs le titre de mon message aujourd'hui. Il est plus qu'une force, c'est vraiment une personne. Si souvent on voit le Saint-Esprit plus comme une force que comme une personne, c'est peut-être parce que souvent le Saint-Esprit est décrit avec différentes manifestations dans la Bible. Déjà, le mot hébreu en esprit, ça veut dire rouar, qui signifie souffle, vent, esprit. Puis en grec, pneuma, ça veut aussi dire ça. On parle de bateau pneumatique, etc. C'est ce mot, souffle, esprit. Jésus lui-même, dans Jean 3, 8, il compare le Saint-Esprit à un vent qui souffle où il veut, quand il veut. Et plus tard, dans Jean 20, 22, Jésus souffle. Il souffle vraiment sur ses disciples et puis il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il est un souffle, il est un vent. Et la Bible nous montre aussi que lorsqu'il se manifeste dans son temple, c'est le Saint-Esprit qui vient. Et plus connu, le Saint-Esprit est comme un feu. On le voit dans Actes 2, par exemple, lorsqu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit descend comme des flammes de feu. Ou comme je l'ai prêché il y a quelque temps, le Saint-Esprit, c'est comme un fleuve, une source d'eau qui coule, une source de vie. Et Jésus le dit clairement dans Jean 7, 38-39, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit. » Il dit cela de l'Esprit, est-il écrit dans Jean 7. C'est très clair. Le Saint-Esprit, c'est aussi souvent symbolisé comme de l'huile. C'est pour ça qu'on parle d'onction. Il y a l'onction de Dieu. C'est cette huile du Saint-Esprit qui est là. L'onction du Saint-Esprit qui coule sur nous. Dans 1 Samuel 16, lorsque le prophète Samuel oint le roi David, il verse vraiment de l'huile, comme pour la marque du Saint-Esprit sur sa vie. Et comme je vous ai dit avant, le dimanche de la Pentecôte, je vous ai prêché du Saint-Esprit, mais notamment cette vision du chandelier de Zacharie où chaque lampe avait un réservoir rempli d'huile, où cette huile amenait ce feu à brûler. Et même ces réservoirs étaient liés directement à l'olivier. Constamment, ça brûlait constamment. Cette présence de Dieu, constante. Et lorsque Jésus se fait baptiser, le Saint-Esprit descend comme une colombe, dans Matthieu 3. Alors, il y a souvent ces différentes images qui sont utilisées. Le Saint-Esprit, c'est un être spirituel qui n'a pas de corps. On ne voit pas son corps comme Jésus en voyait son corps. Il mangeait, voilà. Au contraire de Jésus qui était lui limité justement dans ce corps. Mais il est justement représenté par ces manifestations physiques que je viens de vous décrire. Par contre, il peut être représenté par une colombe, mais le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Il peut brûler comme une flamme, mais le Saint-Esprit n'est pas du feu. Il peut être comparé à de l'huile, de l'eau, du vent, mais ce n'est pas juste un élément. Ce n'est pas juste une image. Ce n'est pas juste une vibe. Ce n'est pas juste une énergie. C'est plus qu'une force. C'est une personne plus réelle que toi et moi. Invisible, mais incontournable. C'est la puissance de Dieu. C'est cette présence active ici sur terre maintenant. Souvent, peut-être qu'on sait ces choses. Parfois, on vit notre vie chrétienne sans forcément réaliser qu'il y a quelqu'un, qu'il y a cet autre qui est juste ici, à côté de toi. On le sait, mais des fois, quand on prie, c'est comme s'il fallait envoyer notre prière en espérant qu'elle atteigne vraiment le bon endroit au ciel, quoi. Qu'il n'y ait rien qui intercepte notre petit avion de prière qui arrive vraiment au trône, alors que Dieu en personne, le Saint-Esprit, marche à nos côtés. Lorsque Jésus explique à Nicodème comment naître de nouveau, il parle de naître d'eau et d'esprit. Et il fait référence aussi au baptême d'eau et au baptême dans le Saint-Esprit. Et Jésus, dans Jean 3, 8, en parlant du Saint-Esprit, il dit, j'ai juste dit le début du verset avant, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Comme on l'a vu, le Saint-Esprit est parfois imprévisible. Il se manifeste de différentes manières. Parfois, quand Dieu vient, il vient dans la douceur, il est là dans notre quotidien, il cohabite discrètement avec nous, espérant qu'on lui parle, espérant qu'on l'écoute. Parfois, on a hâte de plus de lui, et il vient des fois d'une façon qui nous dépasse. Il est tellement plus grand que nous, et sa manière d'agir est aussi bien plus grande que notre façon de comprendre. Pour faire un parallèle, c'était déjà le cas avec Jésus. Le peuple d'Israël, ils attendaient un Messie depuis des centaines d'années. Et Dieu est venu tout autrement qu'ils s'attendaient, qu'ils ne l'espéraient. Ça leur est arrivé à eux avec Jésus, ça pourrait nous arriver à nous avec le Saint-Esprit. Pourtant, il y avait environ plus de 220 prophéties qui annonçaient l'avenue de Jésus, avec des forts indices que comment il viendrait, d'autres plus subtils. Du coup, les gens y retenaient peut-être juste certaines choses, peut-être qui les arrangeaient ou qui étaient plus clinquants, je ne sais pas. Alors qu'ils étaient peut-être un peu saoulés d'être sous la domination des Romains, qui dominaient politiquement. Ils attendaient un libérateur, quelqu'un qui allait changer les circonstances. Mais Jésus, il n'est pas venu s'occuper de politique, il n'est pas venu s'occuper de nation, il n'est pas venu libérer un pays, d'Israël, des Romains. Ils s'attendaient à quelqu'un qui allait s'occuper de ça, alors que Jésus est venu de s'occuper de leur cœur. Ils attendaient un libérateur, le Fils de Dieu, comme un Dieu qui vient avec prestance, avec puissance, alors qu'il est né dans une étable, né d'une femme, qu'il a grandi dans une famille, qu'il était dans l'anonymat pendant 30 ans. Et puis, avant de commencer son ministère, plutôt que d'aller vers le prophète super connu de l'époque pour montrer qui il était, Jean-Baptiste, il est allé vers lui pour lui demander de le baptiser. Quelle humilité! Et il est venu par la petite porte. Il a cassé les codes, comme on dit, considérant par exemple les femmes à l'égal de l'homme, alors qu'elles, c'était une culture tellement enfermante à l'époque pour elles. Il a respecté Dieu son Père, même les synagogues, mais il a amené la vie, il a amené cette vie, et cette vie parfois elle a éclaboussé. Parfois ça a transgressé les règles humaines en place, guérison du jour du sabbat, ça a troublé la tranquillité. Une maison était remplie, ils ont dû faire un trou puis passer le paralysé par le toit. On évitera de faire ça la semaine prochaine, vu que ça sera plein. Il est venu autrement qu'attendu, en libérant les gens du poids de la religion, de la loi pour amener la vie. Et au final, plutôt que d'être le héros qui allait enfin donner une leçon au monde, il meurt. Et alors qu'il ressuscite, il apparaît à ses disciples et à d'autres. Mais plutôt que de revenir puis de fanfaronner comme celui qui a gagné, il aurait pu étaler sa victoire. Mais il a dit, il est mieux que je m'en aille, je vais vous envoyer quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit. Et là aussi, c'est peut-être pas comme ils ont imaginé, ils montent vers le Père. celui qu'ils ont attendu des centaines d'années, il part après 3 ans qu'il est connu, et juste une dizaine de jours après qu'il soit ressuscité. C'est fou. Dieu agit autrement qu'on pense, différemment, plus grand. C'était le cas avec Jésus quand il est venu sur terre, et il en va de même avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Ésaïe 55 en dit « Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. » Et on a tellement faim et soif de la présence de Dieu, de son esprit, mais j'aimerais pas non plus que mes conceptions m'empêchent de rencontrer vraiment le Saint-Esprit. Cette autre personne qui a été envoyée sur terre, le Saint-Esprit. Comme ceux qui n'ont pas reconnu Jésus. Juste avant de monter au ciel et de retourner vers le Père, Jésus a dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Vous serez mes témoins. Lorsque la personne du Saint-Esprit vient, il vient avec une puissance. C'est ce mot « dynamis ». C'est de là que vient le mot « dynamique ». Même la dynamite, c'est une force explosive. Le Saint-Esprit a une puissance. C'est un exemple humain, c'est comme l'électricité. Le Saint-Esprit vient. J'ai pressé avec le pied, ce n'était pas juste un miracle du Seigneur. Un exemple humain, l'électricité, c'est un bon exemple. L'électricité, ça permet de faire bouger les choses. Ça permet d'allumer une lumière, de révéler. Ça permet de chauffer, sentir une chaleur. On a vu que le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une force, mais une personne. Mais il agit sur terre, le Saint-Esprit, par sa force. Et Jésus parle aussi du Saint-Esprit comme une puissance. Et lorsqu'on touche à la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Ça va toucher notre esprit, ça va nous parler, on va avoir une révélation. Peut-être que ce qu'on ne comprenait pas, tout à coup, on va le comprendre. Peut-être que quand on lisait la Bible, on ne comprenait pas tellement, c'était compliqué. Avec le Saint-Esprit, tout à coup, il y a des mots, des choses qui vont commencer à nous parler, parce que le Saint-Esprit est là, et ça va commencer à nous parler, ce qui ne nous parlait pas avant. Ça, il parle à notre esprit, il touche notre esprit, il va toucher notre âme. Il va venir guérir nos blessures, peut-être intérieures, guérir nos cœurs, peut-être qu'on va pleurer. Ou alors ce souffle va venir en nous, puis déloger d'autres esprits qui ne sont pas le Saint-Esprit, d'autres esprits. On va vivre des délivrances. Et là, on arrive déjà au fait que le Saint-Esprit touche nos corps. Quand il y a des délivrances, souvent, ça touche même le corps. Il touche notre esprit, notre âme et du coup aussi notre corps. Je vais peut-être avoir des larmes, pleurer, je ne sais pas. Ou quelqu'un qui vit même une guérison tellement profonde, même là où ça faisait tellement mal depuis des années, peut-être qu'elle va crier parce que le Saint-Esprit va toucher tellement profond et guérir que le cri de douleur va sortir. Ou peut-être qu'un esprit, quand il part, il ne le fait peut-être pas en silence, même s'il n'a pas besoin de le faire autrement qu'en silence. Et on voit donc que ça touche non seulement l'esprit là, mais des fois aussi le corps. Et le Saint-Esprit, c'est plus puissant que l'électricité. Moi, si je touche l'électricité, si je touche ce fil là, que je viens de brancher au 380, non. Si je touche ce fil ici, même un simple fil de vache, là, si vous touchez un petit peu, vous sentez des fois une petite secouée, hein, ça va secouer un peu. Mais lorsqu'on est touché par le Saint-Esprit, on va être secoué intérieurement, et des fois même physiquement. Imaginez si c'est vraiment du 220 volts, puis que je le touche comme ça. Ou bien que je le touche avec ma bouche, imaginez, j'aurai une autre coiffure, quoi. Le Saint-Esprit est hyper puissant. Dieu est tout puissant et il peut arriver lorsqu'il manifeste sa puissance que notre esprit, notre âme et même notre corps réagissent. Par exemple, 2 Chroniques 5, il est mis que les sacrificateurs, ils ne pouvaient plus rester debout à cause de la gloire de Dieu. Il y avait une présence du Saint-Esprit et de Dieu qui était tellement forte qu'ils ne tenaient plus debout. Jean 18, à Gethsémané, quand Jésus parle aux soldats qui venaient pour l'arrêter, il demande « Mais il est où, le Messie ?» Il dit « C'est moi !» Il tombe au sol, tellement c'était puissant. Dans Acte 9, Saul de Tarse, Paul, il tombe à terre quand Jésus lui parle sur le chemin de Damas. Il est aveuglé par la lumière. Dans Apocalypse 1, 17, Jean tombe comme mort au pied du Christ glorifié. La gloire de Dieu est tellement forte que Jean y tombe, comme mort. Ézéchiel 1, 28 ou 3, 23, le prophète, Ézéchiel, il tombe face contre terre devant la gloire de l'Éternel. Dans Luc 1, alors que Marie, qui porte Jésus en son sein, va voir Élisabeth, qui est aussi enceinte de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste va réagir à la présence de Jésus, il va bouger, il va avoir des manifestations physiques à l'intérieur d'Élisabeth, et il est dit qu'il va tressaillir physiquement. Et c'est intéressant de voir la définition du mot tressaillir. Tressaillir, c'est un brusque mouvement involontaire du corps, généralement sous le coup d'une émotion intense. Et le Saint-Esprit, c'est tellement plus qu'une émotion. Donc si on peut tressaillir pour une émotion, on peut tressaillir et puis bouger même physiquement tellement le Saint-Esprit agit puissamment. On le voit dans Actes 10:10, Pierre qui a une vision en esprit qui est tellement forte, il tombe en extase. Et là, il va avoir une des visions les plus extraordinaires du monde jusqu'à aujourd'hui, c'est que le salut, il n'est pas juste pour les Juifs, mais pour le monde entier. C'était tellement puissant, c'était tellement fort, cette puissance du Saint-Esprit, qu'il est tombé en extase. Or, nous, quand on lit ça, ça nous paraît normal. Quoi. On mouille notre doigt pour passer à la page suivante. C'est rien de spécial. Mais ça devait être spécial à voir quand même, hein, de voir Paul, de voir Pierre comme ça en extase, qui est complètement visité par Dieu, puis qui a une vision. Ça devait être particulier. Si je vous parle de ça, c'est pour vous dire que ça arrive. Pas tout le temps, mais ça peut arriver quand le Saint-Esprit vient. D'une façon, mon rapport avec l'électricité, il est normal, je ne touche pas souvent les câbles, j'évite de le faire, mais elle m'amène beaucoup de choses, l'électricité. Je recharge mon téléphone, ça me permet de me tirer un café avec ma machine à café, ça me permet au frigo de refroidir ma nourriture, ça me permet à ma télé de marcher. Mais je ne la vois pas, cette électricité. Mais elle fait plein de choses qui sont géniales. Mais si je touche l'électricité, ça va agir sur moi. L'année passée, j'étais chez le médecin, juste pour un contrôle, au final, rien de spécial. Mais il a testé mes nerfs au niveau du bras droit et ma jambe droite, puis il m'a mis de ces électrodes. Peut-être qu'il y en a qui ont fait ça, déjà, pour contrôler le nerf carpien, etc. Puis il envoie des petites décharges. Vous voyez votre bras qui bouge comme ça. Puis après, même la jambe, qu'elle part, parce que lui, il met juste un peu d'électricité, puis toc, t'as la jambe qui part. Puis vous avez déjà vu sûrement de la pub, ou bien vous avez ça chez vous, mais je ne vais pas vous demander de lever la main. Peut-être que vous avez ces trucs électriques, là, ces petites. Vous pouvez vous coller des patchs électriques sur votre. Pour avoir des super abdominaux, un six-pack, tout en regardant la télé, puis en mangeant des chips. Et puis ça envoie des petites impulsions électriques, puis ça fait bouger les muscles ici, et puis vous devenez super. Sportif, c'est des petites impulsions électriques qui font que votre corps y bouge. Tout ça pour dire qu'il arrive parfois, alors que le Saint-Esprit, qui est tellement plus puissant que l'électricité, qui est tellement plus puissant que ces petites impulsions, que non seulement notre esprit est touché, qu'on a une révélation, que non seulement notre âme, nos émotions vont être touchées, puis peut-être qu'on va pleurer ou qu'on va être touché à l'intérieur, peut-être que même notre corps va être touché, comme on vient de le voir qu'il y a eu dans la Bible. Peut-être que notre âme va être touchée, on va pleurer, peut-être qu'on va même rire. Si on rit pour un gag bête, si le Saint-Esprit nous remplit d'une joie incroyable, sans fin, qu'on n'a jamais expérimentée, on peut peut-être aussi rire. C'est comme pour ces électrodes, mais si la puissance du Saint-Esprit, elle nous touche, peut-être qu'on va aussi réagir physiquement. Peut-être que, comme on vient de le voir avec tous ces exemples bibliques, peut-être qu'on pourrait tomber ou être secoué, je ne sais pas. Si je mentionne ça dans mon message ce matin, ce n'est pas pour rechercher ça. Mais j'ai vraiment à cœur d'en parler pour pas qu'on soit arrêté par ça si le Saint-Esprit nous touche puissamment. Et puis que si ça vous arrivait ou que ça nous arrive ou que ça arrive à quelqu'un. À la Pentecôte, les disciples dans la chambre haute, s'ils avaient voulu que le Saint-Esprit respecte le cadre qu'ils ont, leur culture et leur bienséance, il n'y aurait rien eu. Un autre exemple, quand je cuisine... Par exemple, si je fais revenir un bon émincé de bœuf, on fait chauffer l'huile, on met l'émincé, ça, puis des fois ça éclabousse hein, l'huile, dès que vous mettez un petit peu, ça va un peu gicler. C'est pas le but hein, que ça gicle l'huile, c'est pas le but. Mais je ne vais pas arrêter de cuisiner parce que l'huile elle a un peu giclé et qu'elle a un peu éclaboussé ma cuisine. Puis quand je rajoute encore la sauce, une bonne sauce asiatique, comme ça vous donne faim pour tout à l'heure. Puis après que je monte un peu, ça fait... Peut-être en ébullition, un peu des bulles. Oh, c'est un petit peu débordé. C'est pas grave. Je peux essuyer. C'est pas. Ce qui compte, c'est quoi? C'est que le repas soit bon. Alors, je vais pas m'amuser à faire exprès comme un gamin à faire gicler l'huile et puis qu'il y en aille partout. Je vais pas non plus faire exprès que ça soit en ébullition. Mais je vais pas m'empêcher de cuisiner ce bon plat de peur que ça éclabousse. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas m'en offusquer. Ce qui compte, c'est que le repas soit bon. C'est pas que ça éclabousse ou pas. En fait, on pourrait dire j'en ai rien à fiche que ça éclabousse ou pas. Ce qui compte, c'est que ça soit juste bon. Paul, il n'a pas cherché à tomber devant le Seigneur puis à devenir aveugle comme il a vécu sur la route de Damas puis de faire ça à répétition. Mais ce qu'il a vécu, ça a été un déclencheur de son appel, puissant, vraiment. Il y avait un avant, un après. Et je sentais de vous partager, je sentais vraiment dans l'esprit de vous partager ce message, pas pour qu'on cherche ça, mais pas non plus pour qu'on fuit ça. Et le but de l'électricité, c'est pas qu'on soit secoué. Ah là, vous voyez que finalement, il n'est pas branché. Le but de l'électricité, c'est pas qu'on soit secoué, c'est pas ça. Mais c'est que ça amène ce que ça doit amener, allumer ou amener du mouvement. Faire avancer. Et le but du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de nous convaincre de péché, c'est de révéler le Père. Et comme l'a dit Jésus, c'est une puissance afin d'être ses témoins. C'est ça le but du Saint-Esprit. Alors s'il y a des manifestations, je ne vais pas les rechercher, mais je ne vais pas me laisser arrêter non plus par ça. Et j'ai vraiment senti que c'était bien de vous partager ce message, déjà parce qu'on a envie de plus du Saint-Esprit, qu'il nous touche déjà davantage dans nos vies, mais aussi parce que, par exemple, dans une semaine, on aura une réunion ici de guérison. Puis l'accent, ça sera vraiment sur le fait de s'approcher de Dieu, de laisser agir. Et je suis convaincu qu'on va spécialement faire monter le feu sous la casserole pour que Dieu agisse puissamment. Et il se peut qu'il y ait des éclaboussures d'huile, comme quand je fais mon émincé de bœuf, si vous voyez ce que je veux dire. On sera 400 ici. Plus de la moitié des gens, ils viennent de l'extérieur, de tous bords. Ils ont peut-être fait des kilomètres pour venir. Il se peut que tout à coup, il y ait des manifestations émotionnelles, des manifestations spirituelles et peut-être même des manifestations physiques. Peut-être que quelqu'un va pleurer ou crier parce qu'il y a une guérison intérieure tellement puissante qu'il attend depuis des années. Ou bien que quelqu'un tombe sous la puissance de l'Esprit parce que c'est plus fort que cette électricité, le Saint-Esprit. Si vous voyez des choses se passer, que c'est étrange pour vous ou bizarre, mettez pas le focus là-dessus, mais regardez le but, regardez leurs pas. Moi, ce qui compte, c'est l'émincer, c'est pas que ça a un petit peu éclaboussé. Regardons à ce que produit le Saint-Esprit, pas aux à côté. Regardons à la nourriture du ciel, c'est-à-dire un déversement de foi, une onction de guérison, des hommes et des femmes malades qui sont guéris. C'est ça qui compte, pas le reste. C'est ça qui compte, peu importe ce qui se passe. Et puis s'il n'y a aucune éclaboussure de l'huile puis que l'émincé de bœuf est parfait, je serai le premier content. On ne va pas chercher tout ça. Ce qui compte, c'est que Dieu agisse puissamment dans les vies et puis qu'il délivre, qu'il sauve, puis qu'il guérisse. C'est ça le but. Point. Mais il est tellement puissant que c'est normal que nous qui sommes des si petits êtres, que s'il y a une puissance si grande qui vienne, que des fois notre corps y réagisse, comme quand je touche du 220. Le but du Saint-Esprit en nous, il est là pour nous amener vers le Père, être un consolateur, être ce coach, cet ami. Il console, il encourage, comme dit Jean 14. Il enseigne la parole, il rappelle la parole, il convainc de péché, de justice, de jugement, comme Jean 16 le dit. Il donne la force et la puissance pour témoigner, acte 1, 8. Il nous donne ses dons de l'Esprit, 1 Corinthiens 12. Il produit du fruit et transforme notre caractère, Galates 5, 22. Il renouvelle nos pensées, Romains 12, 2. Il touche notre identité en Dieu pour qu'on soit des fils et des filles. Il nous sanctifie, 2 Thessaloniciens 2. C'est énorme ce que fait le Saint-Esprit. Comment s'en passer? Ben, c'est ça le but. C'est pas les à côté, c'est pas les effets collatéraux. Ce qui compte, c'est ça, ce qu'il fait dans notre vie. Le Saint-Esprit veut marcher à nos côtés. Il nous rassure, il nous console, il nous aiguille, il nous dirige. Va par là, va pas par là. Et plus on s'ouvre à cette petite voix du Saint-Esprit en nous, plus on va entendre non seulement ses encouragements, mais aussi ses conseils d'amour. Par exemple, quand il va nous dire « Écris un petit message d'encouragement à telle personne » ou bien « Sois généreux » ou bien « Viens prendre un temps de prière avec moi » ou bien « Prie pour telle personne ». On va l'entendre le dire, il est là à côté, il sait tout. Ou bien peut-être qu'il va te dire « Ne regarde pas une deuxième fois ce bel homme » ou « Ne pose pas une deuxième fois le regard sur cette femme ». Il le dit aussi. Ou bien « Zappe cette scène dans cette série » parce que ça l'offusque. Ou bien, alors que tu es au volant, peut-être qu'il va te dire « Ralentis dans ce virage ». Moi, je me souviens quand j'étais, comme j'ai dit avant, encore plus jeune que maintenant, que j'avais une BMW blanche, super, qu'on roulait des fois, Dieu m'a déjà pardonné de toutes ces excès de vitesse. Non, je me souviens, sur le plateau de Dies, il y avait un dos d'âne. Tout à coup, j'ai senti cette voix intérieure qui dit « Ralentis, j'ai ralenti ». Heureusement, il y avait juste un tracteur derrière le dos d'âne. Soyons attentifs à ces petites voix du Saint-Esprit qui veut être là. C'est la voix du Saint-Esprit qui nous parle. Et Jésus nous dit de continuer ce qu'il faisait quand il était sur terre. mais on n'y arrivera jamais sans Jésus. Mais le problème, c'est que Jésus est remonté vers le Père, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit pour ça. Et c'est seulement par le Saint-Esprit qu'on aura cette percée dans nos contacts avec nos amis et les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est seulement avec cette proximité avec le Saint-Esprit que si on prie pour un malade, on va dire les bons mots, puis qu'on saura quand il faut prier au bon moment, puis quand il faut peut-être rien dire. C'est seulement par le Saint-Esprit qu'on aura un élan de foi, puis ça ne sera pas de l'auto-persuasion, mais on aura vraiment une audace qui vient de lui. 1 Corinthiens 12 nous parle de tous les dons du Saint-Esprit. Pour moi, c'est une boîte à outils avec tout ce qu'il faut pour bâtir son royaume avec lui. Galates 5 nous parle de tout le fruit de l'Esprit. C'est tout ce qui concerne notre attitude, comme on dit aujourd'hui les soft skills du Saint-Esprit, notre attitude, qui on est. Parce que notre vie, c'est notre vie qui doit en premier être un témoignage. Parce que ce qu'on est parle plus fort que ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et tout ça sans le Saint-Esprit, c'est juste une vie de chrétien fatigante, frustrante, parce que la barre, elle semble trop élevée. Mais il nous a envoyé un autre pour ça, ce cher Saint-Esprit qui nous permet de vivre ces choses par sa force. Et il est là avec nous, on fait équipe et ça fait toute la différence. C'est Charles Spurgeon, un fameux prédicateur du 19e siècle, qui a dit « Sans le Saint-Esprit, Dieu paraît lointain. Jésus ne nous apporte rien de réel. L'Évangile reste théorique, l'Église devient une simple organisation, nos cultes vides et notre vie chrétienne sans force. » Et je pense qu'il n'a pas tort. Et pour terminer, ce que j'aimerais vous laisser vraiment et qu'on retienne, c'est que le Saint-Esprit n'est pas juste un rafraîchissement quand on a chaud, c'est pas juste une paix quand on est anxieux, c'est pas juste une joie ou un réconfort quand on est triste. Ce n'est pas juste une sensation de sa présence qui nous fait du bien, mais c'est Dieu en personne sur terre. Et il est tout et il désire être intime avec chacun. Si tu vis avec quelqu'un, quand tu te lèves le matin, tu vas dire « Salut, ça va ? T'as bien dormi ? Tu vas faire quoi aujourd'hui ? Tu vas lui parler ? Tu vas lui dire bonjour ? Ou le soir, quand tu rentres, tu vas partager ta journée, ce qui te préoccupe ou les choses qui te réjouissent ? Il est cette personne qui partage ta vie et il aimerait vraiment parler avec toi. Il aimerait écouter ce que tu lui dis. Et j'aimerais vraiment par ce message te donner faim et soif de découvrir toujours plus de cette cohabitation avec le Saint-Esprit. Vous êtes coloc. Il habite en toi. Et c'est même plus que coloc, c'est le propriétaire. Parce qu'il est dit dans la Bible que vous êtes le temple du Saint-Esprit, notre corps, donc il est là, mais vous ne vous appartenez plus à vous-même. Une fois qu'on dit oui, on y donne les clés. Puis c'est cool, il nous laisse vivre avec, continuer de vivre avec lui en nous. Comme Élie dans le rocher, ne cherchons pas Dieu dans le vent, dans le feu, dans les manifestations, mais dans le doux murmure du Saint-Esprit qui va venir transformer notre vie. Et s'il arrivait que je touche du 220 ou du 380, et que mon corps réagisse, qu'importe, c'est ni mon but, c'est ni faux. Jésus a soufflé sur ses disciples, il a donné son esprit pour guérir, pour sauver, pour délivrer. C'est ça le but. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu avec tellement de manifestations, des tremblements, de l'ivresse. Ça ne devait pas être triste, hein, l'ambiance. Ça bougeait émotionnellement, physiquement, spirituellement. L'huile, elle éclaboussait là. Ce n'était pas juste bien dans la casserole. Ce n'était pas le but. D'ailleurs, c'est intéressant, ils n'ont pas essayé de reproduire ça. Ils ont dit, voilà, maintenant on va faire des rencontres de Pentecôte, on va faire notre petit groupe de Pentecôte. On est tellement bien entre nous, puis on a envie de vivre les mêmes choses. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils sont ouverts. Mais c'est tellement humain, des fois, de vouloir faire pareil. Notre but, c'est de guérir, sauver, délivrer. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que la première église est née avec les conversions. Et on désire aller plus loin, ici. Moi, j'ai en tout cas envie d'aller plus loin. En tant qu'Église Passion, on a envie d'aller plus loin. Au niveau des guérisons, au niveau des conversions, au niveau des transformations aussi de vie et de caractère, le tout. Et je ne désire pas que la façon dont le Saint-Esprit se manifeste, ou bien des fois pourrait faire réagir l'un ou l'autre, ça nous freine ou que ça nous a peur. Moi, je veux le tout. Je veux le tout de Dieu. J'ai envie qu'on ait envie de plus de révélations, davantage entendre sa voix, envie de plus de puissance pour voir les gens être guéris, pour qu'on prie, quand on prie avec quelqu'un, il y a un déclic, il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe. Et gloire à Dieu déjà pour les choses qu'on voit régulièrement. Moi, je suis vraiment époustouflé, mais j'ai envie d'en voir plus. Et je crois que le Saint-Esprit veut être ce doux ami qui est dans notre quotidien tous les jours. en tout cas dans ma relation avec lui, il vient comme ce confident, comme cette oreille, comme ce conseiller. Et c'est tellement précieux tout au long de la journée. Et vraiment, mon cœur ce matin, c'est cherchons et découvrons toujours plus le Saint-Esprit et qui il est. Il ne veut pas juste nous donner du fuel, du carburant, de la force. Il ne veut pas juste nous donner, nous encourager pour aller plus loin. Mais c'est une personne, c'est un ami, c'est un tendre ami doux, inspirant. Mais il est sensible. Il est sensible. Il a une personnalité. Et des fois, je pense qu'il se retire quand on le délaisse. Quand on fait des choses qu'on n'aime pas, je ne suis pas sûr qu'il vienne être avec. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Mais le Saint-Esprit peut être attristé, mais il ne va jamais se compromettre. Il va toujours être disponible quand on vient vers lui. Mais il a envie de marcher avec nous partout. Et fidèlement, il essayera d'attirer notre attention par son amour, nous ramener sur ce chemin de droiture, de vie, de paix. Et pour finir, j'aime beaucoup cette citation, et le groupe Louange, vous allez pouvoir me rejoindre. J'aime beaucoup cette citation que j'ai déjà dit une fois de Rhys Owens, un revivaliste des Pays de Galles. Et il a dit la chose suivante. « Jusqu'alors, j'avais considéré le Saint-Esprit comme une influence agissant dans les réunions. Je n'avais pas compris qu'il doit vivre dans des corps, comme le Sauveur a vécu, dans un corps aussi ici sur terre. » Et encore, il a dit, « Nous devons permettre au Saint-Esprit de vivre en nous la vie que Jésus aurait vécue s'il avait été à notre place. » Et si je laisse le Saint-Esprit être qui il est dans ma vie, je vais vivre les choses comme Jésus les vivait et comme lui a dit, des plus grandes encore. Et pour conclure, imaginez la différence entre un marathonien qui court seul et puis de temps en temps, il envoie avec WhatsApp un audio à son coach et puis après, il écoute l'audio en retour. La prière, en quelque sorte. On prie, puis après, on a des fois une réponse. Mais imaginez la différence avec un marathonien qui court, accompagné de son coach personnel qui court avec, ensemble la course, qui le conseille sur l'allure, qui lui dit quand c'est qu'il faut accélérer, qui lui dit aussi quand il faut ralentir pour tenir dans la durée, quand il faut se ravitailler, quand il faut tenir, quand il faut regarder de l'avant, quand il ne faut pas regarder à gauche, à droite. Quelle différence, hein ? Pourtant, c'est le même coureur, c'est la même course, c'est le même coach. Mais c'est deux manières différentes de courir. Et on est chrétien, on vit la même course, on a le même Saint-Esprit, mais il y a différentes manières de vivre cette course. Et je sais que la meilleure manière pour tenir dans la durée et expérimenter les choses que la Bible veut qu'on vive, c'est d'avoir ce coach avec, puis pas de temps en temps envoyer un message, puis d'espérer entendre l'audio en retour. Mais c'est de converser quotidiennement et sans arrêt avec lui. Et il aimerait qu'on puisse réaliser ça et vivre cette proximité qui nous évite d'avoir une vie chrétienne yo-yo, c'est-à-dire proche de lui, loin de lui, proche de lui, loin de lui. Puis on espère que le yo-yo, il remonte. Parce qu'à force de faire ça, des fois, ça nous fait souci. Mais ce serait comme une course. C'est comme si tu cours, puis tu t'arrêtes. Tu cours, tu t'arrêtes. C'est beaucoup plus fatigant, ce genre d'alternance, que de courir au même rythme. Et en tant que chrétien, si chaque fois, on s'éloigne un peu du Saint-Esprit, puis on doit retourner vers lui, puis on se rééloigne, c'est fatigant à la longue. Et il a envie d'être cet ami fidèle avec nous tous les jours. Il aimerait se faire connaître ce matin, pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment. Et puis, il aimerait aussi se faire redécouvrir d'une manière tellement plus proche à vous qu'il connaissait déjà. Avant qu'on prenne un chant qui sera une réponse quelque part à ça, j'aimerais prier. Je vous encourage à vous lever. Et j'aimerais aussi vous encourager. On va prendre un chant qui va être une réponse aussi à ce message. Si vous êtes touché par ce message et que vous avez envie de découvrir ce Saint-Esprit que vous ne connaissez pas vraiment, ou si vous avez envie de découvrir ce Saint-Esprit d'une nouvelle façon, c'est-à-dire cet ami, ce confident, cette personne tellement plus proche, je t'encourage à venir ici devant. Et puis qu'ensemble, ici devant, on puisse prier et dire « Saint-Esprit, viens toucher ma vie ». Et puis qu'on puisse vraiment le faire. Alors sors simplement des rangs, si tu es touché par ça et que tu as envie de répondre à ce désir, c'est un appel du Saint-Esprit qui a tellement envie de plus parler. Il est à côté de toi tous les jours, à chaque heure, à chaque moment, dans tes joies, dans tes succès, dans tes échecs, dans tes péchés, et il a envie de t'amener vraiment sur ce chemin. Saint-Esprit, je te le dis déjà, moi je suis déjà devant, je reste tourné dans ce sens, mais je suis déjà devant. Saint-Esprit, moi je veux être celui qui répond à ce message. J'ai envie de te dire que Ouais, c'est vrai, je prie souvent Jésus, je prie souvent le Père, et je veux continuer de le faire. Je vais continuer de prier comme Jésus nous l'a dit, notre Père qui est aux cieux. Je vais continuer de prier au nom de Jésus. Mais j'aimerais aussi prier, Saint-Esprit, à toi qui a été envoyé cet autre, qui est cette personne divine sur terre. Je ne veux pas vivre comme si je ne te parlais jamais toute la journée, mais j'ai envie de découvrir cette amitié intime comme Paul en parle dans la Bible. Et je désire vivre un nouveau niveau d'intimité. Et c'est ça qui va m'amener un nouveau niveau de puissance, de fruits, de vie transformée. Et j'ai envie de dire oui à ce message. Je me le prêche à moi-même en premier. Et Saint-Esprit, j'ai envie de te dire oui. Et pardon si j'ai souvent fait appel à toi comme une force pour me restaurer, pour me booster, pour sentir ta présence, pour être sûr que je suis pardonné, pour être sûr que tu vas agir. Pardon si je t'ai demandé d'être cette puissance quand je prie pour les malades ou pour que tu répondes, pour que je t'entende ou pour avoir des dons. J'ai envie de te connaître en tant que personne, en tant qu'ami. Je ne veux pas être un chrétien intéressé. Je veux juste être ton ami, Saint-Esprit, et t'aimer. Et je sais que quand on cherche premièrement ton royaume, il y a tout le reste qui vient. Il y a la boîte à outils des dons du Saint-Esprit et il y a le fruit de ma vie transformée selon ton caractère, un caractère transformé. Et Saint-Esprit, j'ai envie de te dire oui. Et je te prie ce matin de te révéler dans cette salle, de te révéler dans nos vies, de te révéler dans les cœurs. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Et je sais que Dieu en parle beaucoup plus que encore à ceux qui sont ici devant. Tu peux encore t'avancer pendant ce chant. Je t'encourage même à le faire. Mais en tout cas, même si tu restais à ta place, dis oui dans ton cœur. Parce que c'est ça qui compte avant tout. Viens, Saint-Esprit.